Troisième partie. Serge Ivanitch Kosnitschev, au lieu d'aller comme d'habitude à l'étranger pour se reposer de ses travaux intellectuels, arriva vers la fin de mai à Pakrovski. Rien ne valait selon lui la vie des champs et il venait en jouir auprès de son frère. Celui-ci l'accueillit avec d'autant plus de plaisir qu'il n'attendait pas Nicolas cette année. Malgré son affection et son respect pour Serge, Constantin éprouvait un certain malaise auprès de lui à la campagne. Leur façon de la comprendre était trop différente. Pour Constantin, la campagne offrait un but à des travaux d'une incontestable utilité. C'était à ses yeux le théâtre même de la vie, de ses joies, de ses peines, de ses labeurs. Serge, au contraire, n'y voyait qu'un lieu de repos, un antidote contre les corruptions de la ville et le droit de ne rien faire. Leur point de vue sur les paysans était également opposé. Serge Ivanitch prétendait les connaître, les aimer, causait volontiers avec eux, et relevait dans ses entretiens des traits de caractère à l'honneur du peuple qu'il se plaisait à généraliser. Ce jugement superficiel froissait Lévin. Il respectait les paysans et assurait avoir sucé dans le lait de la paysanne sa nourrice une véritable tendresse pour eux, mais leur vice l'exaspérait aussi souvent que leur vertu le frappait. Le peuple représentait pour lui l'associé principal d'un travail commun. Comme tel, il ne voyait aucune distinction à établir entre les qualités, les défauts et les intérêts de cet associé et ceux du reste des hommes. La victoire restait toujours à Serge dans les discussions qui s'élevaient entre les deux frères par suite de leurs divergences d'opinion, et cela parce que ses appréciations restaient inébranlables tandis que Constantin, modifiant sans cesse les siennes, était facilement convaincu de contradictions avec lui-même. Serge Ivanitch considérait son frère comme un brave garçon, dont le cœur, suivant son expression française, était bien placé, mais dont l'esprit, trop impressionnable, quoique ouvert, était rempli d'inconséquences. Souvent, il cherchait, avec la condescendance d'un frère aîné, à lui expliquer le vrai sens des choses. Mais il discutait sans plaisir contre un interlocuteur si facile à battre. Constantin, de son côté, admirait la vaste intelligence de son frère, ainsi que sa haute distinction d'esprit. Il voyait en lui un homme doué des facultés les plus belles et les plus utiles au bien général. Mais en avançant en âge et en apprenant à le mieux connaître, il se demandait parfois, au fond de l'âme, si ce dévouement à des intérêts généraux dont lui-même se sentait si dépourvu constituait bien une qualité. Ne tenait-il pas une certaine impuissance de se frayer une route personnelle parmi toutes celles que la vie ouvre aux hommes, route qu'il en aurait fallu aimer et suivre avec persévérance? Lévin éprouvait encore un autre genre de contrainte envers son frère quand celui-ci passait l'été chez lui. Les journées lui paraissaient trop courtes pour tout ce qu'il avait à faire et à surveiller, tandis que son frère ne songeait qu'à se reposer. Bien que Serge n'écrivît pas, l'activité de son esprit était trop incessante pour qu'il n'eût pas besoin d'exprimer à quelqu'un, sous une forme concise et élégante, les idées qu'il occupait. Constantin était son auditeur le plus habituel. Serge se couchait dans l'herbe et, tout en se chauffant au soleil, il causait volontiers, paresseusement étendu. « Oh, tu ne saurais croire, disait-il, combien je jouis de ma paresse. Je n'ai pas une idée dans la tête, elle est vide comme une boule. » Mais Constantin se lassait vite de rester assis à bavarder. Il savait qu'en son absence, on répandait le fumier à tort et à travers sur les champs, et il souffrait de ne pas surveiller ce travail. Il savait qu'on ôterait les sogues des charrues anglaises pour pouvoir dire qu'elles ne vaudraient jamais les vieilles charrues primitives du paysan leur voisin, etc., etc. « Mais n'es-tu donc pas fatigué de courir par cette chaleur ?» lui demandait Serge. « Oh, je ne te quitte que pour un instant, le temps de voir ce qui se passe au bureau, » répondait Lévin. Et il se sauvait dans les champs. Dans les premiers jours de juin, la vieille bonne qui remplissait les fonctions de ménagère, Agathe Mikhailovna, descendant à la cave avec un pot de petits champignons qu'elle venait de saler, glissa dans l'escalier et se foula le poignet. On fit chercher un médecin du district, jeune étudiant bavard, qui venait de terminer ses études. Il examina la main, affirma qu'elle n'était pas démise, y appliqua des compresses et pendant le dîner, fier de se trouver en société du célèbre Kostitchev, se lança dans la narration de tous les commérages du district, et pour avoir l'occasion de produire ses idées claires et avancées, se plaignit du mauvais état des choses en général. Serge Ivanitch l'écouta avec attention. Animé par la présence d'un nouvel auditeur, il causa, fit des observations justes et fines, respectueusement appréciées par le jeune médecin. Après le départ du docteur, il se trouva dans cette disposition d'esprit un peu surexcité que lui connaissait son frère et qui succédait généralement à une conversation brillante et vive. Une fois seul, Serge prit une ligne pour aller pêcher. Kostnichev aimait la pêche à la ligne. Il semblait mettre une certaine vanité à montrer qu'il savait s'amuser d'un passe-temps aussi puéril. Constantin voulait aller surveiller les labours et examiner les prairies. Il offrit à son frère de le mener en cabriolet jusqu'à la rivière. C'était le moment de l'été où la récolte de l'année se dessine et où commencent les préoccupations des semailles de l'année suivante, alors que se termine la fenaison. Les épis, déjà formés mais encore verts, se balancent légèrement au souffle du vent. Les avoines sortent irrégulièrement de terre dans les champs semés tardivement. Le sarrasin couvre déjà le sol. L'odeur du fumier répandu en monticule sur les champs se mêle au parfum des herbages qui, parsemés de leurs petits bouquets d'oseilles sauvages, s'étendent comme une mer. Cette période de l'été est l'accalmie qui précède la moisson, ce grand effort imposé chaque année aux paysans. La récolte promettait d'être superbe, et aux longues et claires journées succédaient des nuits courtes, accompagnées d'une forte rosée. Pour arriver aux prairies, il fallait traverser le bois. Serge Ivanitch aimait cette forêt touffue. Il désigna l'admiration de son frère un vieux tilleul prêt à fleurir. Mais Constantin, qui ne parlait pas volontiers des beautés de la nature, préférait aussi n'en pas entendre parler. Les paroles lui gâtaient, prétendait-il, les plus belles choses. Il se contenta d'approuver son frère et pensa involontairement à ses affaires. Son attention se concentrait sur un champ en jachère qu'ils atteignirent en sortant du bois. Une herbe jaunissante le recouvrait par endroits, tandis qu'à d'autres, on l'avait déjà retourné. Les télègues arrivaient à la file. Lévin les compta et fut satisfait de l'ouvrage qui se faisait. Ses pensées se portèrent ensuite, à la vue des prairies, sur la grave question du fauchage, une opération qui lui tenait particulièrement au cœur. Il arrêta son cheval. L'herbe haute et épaisse était encore couverte de rosée. Serge Ivanitch, pour ne pas se mouiller les pieds, pria son frère de le conduire en cabriolet jusqu'au buisson de Citiz près duquel on pêchait les perches. Constantin obéit, tout en regrettant de froisser cette belle prairie dont l'herbe moelleuse entourait les pieds des chevaux et laissait tomber ses semences sur les roues de la petite voiture. Serge s'assit sous le Citiz et lança sa ligne. Il ne prit rien, mais il ne s'ennuyait pas et semblait de bonne humeur. Lévin, au contraire, avait hâte de rentrer et de donner des ordres sur le nombre de faucheurs alloués pour le lendemain. Mais il attendait son frère et songeait à la grosse question qui le préoccupait. « Je pensais à toi, dit Serge Ivanitch. Sais-tu que, d'après ce que le raconte le docteur, un garçon qui n'est pas bête, ce qui se passe dans le district n'a pas de nom ? Et cela me fait revenir à ce que je t'ai déjà dit. Tu as tort de ne pas aller aux assemblées et de te tenir à l'écart. Si les hommes de valeur ne veulent pas se mêler des affaires, tout ira à la diable. L'argent des contribuables ne sert à rien, car il n'y a ni école, ni infirmier, ni sage-femme, ni pharmacie, il n'y a rien. J'ai essayé, répondit le contre-cœur Lévin, mais je ne peux pas. Que veux-tu que j'y fasse? Mais pourquoi ne le peux-tu pas? Je t'avoue que je n'y comprends rien. Je n'admets pas que ce soit incapacité ou indifférence. Ne serait-ce pas tout simplement paresse? Mais rien de tout cela. J'ai essayé et j'ai acquis la conviction que je ne pouvais rien faire. Lévin n'approfondissait pas beaucoup ce que disait son frère, et tout en regardant la rivière et la prairie, il cherchait à distinguer dans le lointain un point noir. Était-ce le cheval de l'intendant? Mais tu te résignes trop facilement, comment n'y mets-tu pas un peu d'amour-propre? Oh, je ne conçois pas l'amour-propre en pareille matière, répondit Lévin, que ce reproche piqua au vif. Si à l'université, on m'avait reproché d'être incapable de comprendre le calcul intégral comme mes camarades, j'y aurais mis de l'amour-propre. Mais ici, il faudrait commencer par croire à l'utilité des innovations à l'ordre du jour. « Mais quoi? Sont-elles donc inutiles ?» demanda Serge Ivanitch, froissé de voir son frère attacher si peu d'importance à ses paroles et y prêter une si médiocre attention. « Non, que veux-tu que j'y fasse? Je ne vois rien là d'utile et ne m'y intéresse pas, » répondit Lévin, qui venait enfin de reconnaître son intendant à cheval dans le lointain. « Écoute, » dit le frère aîné dont le beau visage s'était rembruni, « il y a limite à tout. Admettons qu'il soit superbe de détester la prose, le mensonge et de passer pour un original, mais ce que tu viens de dire n'a pas le sens commun. » Trouves-tu réellement indifférent que le peuple que tu aimes, à ce que tu assures ? Ouf, je n'ai jamais rien assuré de pareil, interrompit Lévin. Que ce peuple meure sans secours, reprit Serge. Que de grossières sages-femmes fassent périr les nouveau-nés. Que les paysans croupissent dans l'ignorance et restent la proie du premier écrivain venu. Et Serge Ivanitch lui posa le dilemme suivant. Ou bien ton développement intellectuel est en défaut, ou bien c'est ton amour du repos, ta vanité, que sais-je, qui l'emporte. Constantin sentit que, s'il ne voulait pas être convaincu d'indifférence pour le bien public, il n'avait qu'à se soumettre. « Je ne vois pas, dit-il blessé et mécontent, qu'il soit possible. Comment tu ne vois pas, par exemple, qu'en surveillant mieux l'emploi des contributions, il serait possible d'obtenir une assistance médicale quelconque? Je ne crois pas à la possibilité d'une assistance médicale sur une étendue de 4000 verstes carrées, comme notre district. Au reste, je n'ai aucune foi dans l'efficacité de la médecine. « Oh, tu es injuste. Je te citerai 1000 exemples. Et les écoles ?»« Pourquoi faire des écoles ?»« Comment pourquoi faire? Peut-on douter des avantages de l'instruction? Si tu la trouves utile pour toi, peux-tu la refuser aux autres ?» Constantin se sentit mis au pied du mur et dans son irritation avoua involontairement la véritable cause de son indifférence. Tout cela peut être vrai, mais pourquoi irais-je me tracasser au sujet de ces stations médicales dont je ne me servirai jamais, de ces écoles où je n'enverrai jamais mes enfants, où les paysans ne veulent pas envoyer les leurs et où je ne suis pas sûr du tout qu'il soit bon de les envoyer? Serge Ivanitch fut déconcerté de cette sortie et, tirant silencieusement sa ligne de l'eau, il se tourna vers son frère en souriant. Mais tu as cependant éprouvé le besoin d'un médecin, puisque tu en as fait venir un pour Agathe Mihailovna. Mais je crois que sa main ne restera pas moins estropiée. C'est à savoir. Puis, lorsque le paysan sait lire, ne te rends-tu pas meilleur service? Oh, non, quant à cela, non, répondit carrément Lévin. Questionne qui tu voudras, chacun te dira que le paysan qui sait lire vaut moins comme ouvrier. Il n'ira plus réparer les routes, et si on l'emploie à construire un pont, il tâchera avant tout d'en emporter les planches. Au reste, il ne s'agit pas de cela, dit Serge en fronçant le sourcil. Il détestait la contradiction, et surtout cette façon de sauter d'un sujet à l'autre et de produire des arguments sans aucun lien apparent. La question se pose ainsi. Conviens-tu que l'éducation soit un bien pour le peuple ? J'en conviens, dit Lévin, sans songer que telle n'était pas sa pensée. Il sentit aussitôt que son frère allait retourner cet aveu contre lui et comprit qu'il serait logiquement convaincu d'inconséquence. Ce fut bien facile. Mais du moment alors que tu en conviens, tu ne saurais en honnête homme refuser ta coopération à cette œuvre. Mais si je ne la regarde pas encore comme bonne, cette œuvre, dit Lévin en rougissant. Comment cela ? Tu viens de dire... Je veux dire que l'expérience n'a pas encore démontré qu'elle fût vraiment utile. Tu n'en sais rien puisque tu n'as pas fait le moindre effort pour t'en convaincre. Eh bien, admettons que l'instruction du peuple soit un bien, dit Constantin sans la moindre conviction. Mais pourquoi irais-je m'en tourmenter, moi ? Comment, pourquoi ? Explique-moi ton idée au point de vue philosophique, puisque nous en sommes là. Je ne vois pas que la philosophie ait rien à faire là, répondit Serge d'un ton qui parut à son frère établir des doutes sur son droit de parler philosophie. Voilà pourquoi, dit-il mécontent et s'échauffant tout en parlant. Selon moi, le mobile de nos actions restera toujours notre intérêt personnel. Or, je ne vois rien dans nos institutions provinciales qui contribue à mon bien-être. Les routes ne sont pas meilleures et ne peuvent pas le devenir. D'ailleurs, mes chevaux me conduisent tout aussi bien par de mauvais chemins. Je ne fais aucun cas des médecins et des pharmacies. Le juge de paix m'est inutile. Jamais je n'ai eu recours à lui, et jamais l'idée d'avoir recours à lui ne me viendra. Les écoles, non seulement me paraissent inutiles, mais, comme je te l'ai expliqué, me font du tort. Quant aux institutions provinciales, elles ne représentent pour moi que l'obligation de payer un impôt de 18 copecs par déciatine, d'aller à la ville, d'y coucher avec des punaises, et d'y entendre des inepties et des grossièretés de tout genre. Rien de tout cela n'est dans mon intérêt personnel. Pardon, interrompit en souriant Serge Ivanitch, il n'était pas de notre intérêt de travailler à l'émancipation des paysans. Nous l'avons cependant fait. Oh, mais l'émancipation était une autre affaire, reprit Constantin en s'animant de plus en plus. C'était bien notre intérêt personnel. Nous avons voulu, nous autres honnêtes gens, secouer un joug qui nous pesait. Mais être membre du conseil de la ville et venir discuter sur des conduits à établir dans les rues que je n'habite pas, être juré et venir juger un paysan accusé d'avoir volé un jambon, écouter pendant 6 heures les sottises variées que peuvent débiter le défenseur et le procureur, demandez comme président à Alexis, mon vieil ami à moitié idiot, « Reconnaissez-vous, monsieur l'accusé, avoir dérobé un jambon ?» Et Constantin, entraîné par son sujet, représenta la scène entre le président et l'accusé, s'imaginant continuer ainsi la discussion. Serge Ivanitch leva les épaules. « Alors qu'entends-tu par là ? Ben, j'entends que... lorsqu'il s'agira de droits qui me toucheront, qui toucheront à mes intérêts personnels, je saurai les défendre de toutes mes forces. Lorsque, étant étudiant, on venait faire des perquisitions chez nous et que les gendarmes lisaient nos lettres, je savais défendre mes droits à la liberté et à l'instruction. Je veux bien discuter le service obligatoire, parce que c'est une question qui touche au sort de mes enfants, de mes frères, au mien par conséquent. Mais savoir comment employer les 40 000 roubles d'impôts et faire le procès d'Alexis l'idiot, Je m'en sens pas capable. » La digue était rompue. Constantin parlait sans s'arrêter. Serge sourit. « Et si demain tu as un procès, tu préférais être jugé par les tribunaux d'autrefois ?»« Je n'aurai pas de procès. Je n'assassinerai personne. Et tout cela ne me sert à rien. Nos institutions provinciales, vois-tu, dit-il en sautant selon son habitude d'un sujet à l'autre, me rappellent les petits boulots que nous enfoncions en terre le jour de la Trinité pour figurer une forêt. La forêt a poussé d'elle-même en Europe, mais quant à nos petits boulots, il m'est impossible de les arroser et de croire en eux. » Serge Ivanitch haussa les épaules en signe d'étonnement de voir ces petits boulots mêlés à leur discussion. Il comprit cependant l'idée de son frère. « Ceci n'est pas un raisonnement, dit-il. » Mais Constantin, pour tâcher d'expliquer cette absence d'intérêt pour les affaires publiques dont il se sentait coupable, continua. « Je crois qu'il n'y a pas d'activité durable si elle n'est pas fondée sur l'intérêt personnel. C'est une vérité générale, philosophique, dit-il en appuyant sur ces derniers mots, comme pour prouver qu'il avait aussi bien qu'un autre le droit de parler philosophie. Serge Ivanitch sourit encore. Lui aussi, se dit-il, se fait une philosophie pour la mettre au service de ses penchants. Laisse la philosophie tranquille. Son but a précisément été dans tous les temps de saisir ce lien indispensable qui existe entre l'intérêt personnel et l'intérêt général. Mais je tiens à rectifier la comparaison. Les petits boulots n'ont pas été fichés en terre, ils ont été semés, plantés, et il faut les traiter avec ménagement. Les seules nations qui aient de l'avenir, les seules qu'on puisse nommer historiques, sont celles qui sentent l'importance et la valeur de leurs institutions et qui, par conséquent, y attachent du prix. Et pour mieux démontrer l'erreur que son frère commettait, il discutait la question au point de vue de la philosophie de l'histoire, un terrain sur lequel Constantin ne pouvait pas le suivre. Quant à ton peu de goût pour les affaires, tu m'excuseras si je le mets sur le compte de notre paresse russe, de nos anciennes habitudes de grand seigneur. Laisse-moi espérer que tu reviendras de cette erreur passagère. » Constantin ne répondit pas. Il se sentait battu à plate couture et sentait également que son frère n'avait pas compris ou n'avait pas voulu comprendre sa pensée. Était-ce lui qui ne savait pas s'expliquer clairement ou son frère qui y mettait de la mauvaise volonté ? Sans approfondir cette question, il ne répliqua pas et s'absorba dans ses réflexions. Serge Ivanitch retira ses lignes, détacha le cheval et ils partirent. Lévine, l'année précédente, un jour qu'on fauchait, s'était mis en colère contre son intendant et pour se calmer, il avait pris la faux d'un paysan et s'était mis à faucher lui-même. Ce travail l'avait tant abusé qu'il recommença plusieurs fois, faucha lui-même la prairie devant la maison et se promit de faucher l'année suivante des journées entières avec les paysans. Depuis l'arrivée de Serge, il se demandait s'il pourrait donner suite à ce projet. Il était confus d'abandonner son frère pendant toute une journée et craignait aussi un peu ses plaisanteries. Les impressions de l'année précédente lui revinrent tandis qu'il traversait la prairie. Il me faut absolument un exercice violent. Sinon mon caractère deviendra intraitable, pensa-t-il, décidé à braver l'ennui que pouvaient lui causer les observations de son frère et de ses gens. Le même soir, en allant donner ses ordres pour les travaux du lendemain, Lévin, dissimulant son embarras, dit à son intendant « Vous enverrez ma faux à Tite pour qu'il la repasse demain. Je faucherai peut-être moi-même. » L'intendant sourit et répondit « C'est bien. » Plus tard, en prenant le thé, Lévin dit à son frère « Ben, décidément, le temps se met au beau. Je faucherai demain. J'aime beaucoup ce travail, dit Serge Ivanitch. Moi, je l'aime extrêmement. Il m'est arrivé de faucher l'année dernière, et je veux m'y remettre demain, toute la journée. Serge Ivanitch leva la tête et regarda son frère avec étonnement. Comment l'entends-tu? Travailler toute la journée comme un paysan? Oui, c'est très amusant. Oh, c'est un excellent exercice physique, mais pourras-tu supporter une fatigue pareille? Demanda Serge sans aucune intention ironique. Je l'ai essayé. Au commencement, c'est dur. Puis on s'entraîne. Je crois bien que j'irai jusqu'au bout. Vraiment? Mais de quel œil les paysans voient-ils cela? Ne tournent-ils pas en ridicule les manies du maître? Et puis comment feras-tu pour dîner? On ne peut guère se faire porter là-bas une bouteille de Lafitte et un dindon rôti. Je rentrerai à la maison pendant que les paysans se reposeront. Le lendemain matin, quoique levé plus tôt que de coutume, Lévin, en arrivant à la prairie, trouva les faucheurs déjà à l'ouvrage. La prairie s'étendait au pied de la colline, avec ses rangées d'herbes déjà fauchées et les petits monticules noirs formés par les vêtements des travailleurs. Lévin découvrit, en approchant les faucheurs, marchant en échelle les uns derrière les autres et avançant seulement sur le sol inégal de la prairie. Il compta 42 hommes et distingua parmi eux des connaissances. Le vieil Ermil en chemise blanche, le dos voûté, et le jeune Vassia, autrefois son cocher. Tite, son professeur, un petit vieillard sec, était là aussi, faisant de larges fauchées sans se baisser et maniant aisé la faux. Lévin descendit de cheval, attacha l'animal près de la route et s'approcha de Tite, qui alla aussitôt prendre une faux cachée derrière un buisson et la lui présenta. Elle est prête, barine, c'est un rasoir, elle fauche toute seule, dit Tite, ôtant son bonnet en souriant. Lévin prit la faux. Les faucheurs, après avoir fini leur ligne, retournaient sur la route. Ils étaient couverts de sueur, mais gais et de bonne humeur, et saluaient tous le maître en souriant. Personne n'osa ouvrir la bouche avant qu'un grand vieillard sans barbe, vêtu d'une jaquette en peau de mouton, lui adressa le premier la parole. Attention, barine! Quand on commence une besogne, il faut la terminer, dit-il. Et Lévin entendit un rire étouffé parmi les faucheurs. Je tâcherai de ne pas me laisser dépasser, répondit-il en se plaçant derrière Tite. Attention, répéta le vieux. Tite lui ayant fait place, il emboîta le pas derrière lui. L'herbe était courte et dure. Lévin n'avait pas fauché depuis longtemps. Et troublé par les regards fixés sur lui, il débuta mal, quoiqu'il maniât vigoureusement la faux. Deux voix derrière lui disaient: Mais mal emmanché, il tient la faux trop haut, regarde comme il se courbe. Appuie davantage le talon. Ce n'est pas mal, il s'y fera, dit le vieux. Le voilà parti. Oh, tes fauchées sont trop grandes. Tu te fatigueras vite. Jadis, nous aurions reçu des coups pour de l'ouvrage fait comme cela. L'herbe devenait plus douce et Lévin, écoutant les observations sans y répondre, suivait Tite. Ils firent ainsi une centaine de pas. Le paysan marchait sans s'arrêter, mais Lévin s'épuisait et craignait de ne pas arriver jusqu'au bout. Il allait prier Tite de s'interrompre, lorsque celui-ci fit halte de lui-même, se baissa, prit une poignée d'herbe, en essuya sa faux et se mit à la filer. Lévin se redressa et jeta un regard autour de lui avec un soupir de soulagement. Près de lui, un paysan, tout aussi fatigué, s'arrêta aussi. À la seconde reprise, tout alla de même. Tite avançait d'un pas après chaque fauché. Lévine, qui marchait derrière, ne voulait pas se laisser dépasser, mais au moment où l'effort devenait si grand qu'il se croyait à bout de force, Tite s'arrêtait et se mettait à aiguiser. Le plus pénible était fait. Lorsque le travail recommença, Lévine n'eut d'autre pensée, d'autre désir que d'arriver aussi vite et aussi bien que les autres. Il n'entendait que le bruit des faux derrière lui, ne voyait que la taille droite de Tite marchant devant et le demi-cercle décrit par la fosse sur l'herbe qu'elle abaissait lentement en tranchant les petites têtes des fleurs. Tout à coup, il sentit une agréable sensation de fraîcheur sur les épaules. Il regarda le ciel pendant que Tite affilait sa faux et vit un gros nuage noir. Il s'aperçut qu'il pleuvait. Quelques-uns des paysans avaient été mettre leurs vêtements, les autres faisaient comme Lévine et recevaient avec plaisir la pluie sur leur dos. L'ouvrage avançait. Lévine avait absolument perdu la notion du temps et de l'heure. Son travail à ce moment lui sembla plein de douceur. C'était un état d'inconscience où, libre et dégagé, il oubliait complètement ce qu'il faisait, bien que son ouvrage valut un ancien instant celui de Tite. Cependant, Tite s'était approché du vieux et il examina le soleil avec lui. « De quoi parle-t-il ? Mais pourquoi ne continuons-nous pas ?» se dit Lévine, sans songer que les paysans travaillaient sans repos depuis près de 4 heures et qu'il était temps de déjeuner. « Il faut manger, Barine, » dit le vieux. « Ah, est-il déjà si tard ? En ce cas, déjeunons !» Lévine rendit sa faux à Tite, et traversant avec les paysans la grande étendue d'herbes fauchées que la pluie venait d'arroser légèrement, il alla chercher son cheval, tandis que ceux-ci prenaient leur pain déposé dans les cafetans sur l'herbe. Il s'aperçut alors qu'il n'avait pas bien prévu le temps et que son foin serait mouillé. « Ah, mais le foin sera gâté, » dit-il. « Il n'y a pas de mal, Barine. Fauche à la pluie, fan au soleil, » dit le vieux. Lévine détacha son cheval et rentra prendre du café chez lui. Serge Ivanitch venait seulement de se lever. Avant qu'il fût habillé et eût paru dans la salle à manger, Constantin était retourné à la prairie. Après le déjeuner, Lévine, en reprenant l'ouvrage, prit place entre le grand vieillard facétieux, qui l'invitait à être son voisin, et un jeune paysan marié depuis l'automne, qui fauchait cet été pour la première fois. Le vieillard avançait à grands pas réguliers et semblait faucher avec aussi peu de peine que s'il eût simplement balancé les bras en marchant. Sa faux bien affilée paraissait travailler toute seule. Lévine se remit à l'œuvre. Derrière lui marchait le jeune Michel, les cheveux attachés autour de la tête par des herbes enroulées. Son jeune visage travaillait avec le reste de son corps. Mais aussitôt qu'on le regardait, il souriait et aurait mieux aimé mourir que d'avouer qu'il trouvait la tâche rude. Le travail parut à Lévine moins pénible pendant la chaleur du jour. La sueur qui le baignait le rafraîchissait, et le soleil, dardant sur son dos, sa tête et ses bras nus jusqu'aux coudes, lui donnait de la force et de l'énergie. Les moments d'oubli, d'inconscience revenaient plus souvent. La faux travaillait alors toute seule. C'était d'heureux instants. Lorsqu'on se rapprochait de la rivière, le vieillard qui marchait devant Lévine essuyait sa faux avec de l'herbe mouillée, la lavait dans la rivière et épuisait une eau qu'il offrait à boire au maître. « Que diras-tu de mon kvass, Carvin ? Il est bon, hein ?» Et Lévine croyait effectivement n'avoir rien bu de meilleur que cette eau tiède dans laquelle nageaient des herbes avec le petit goût de rouille qui ajoutait l'écuelle de fer du paysan. Puis venait la promenade lente et pleine de béatitude où la faux bras, on pouvait s'essuyer le front, respirer à plein poumon et jeter un coup d'œil aux faucheurs, au bois, aux champs, à tout ce qui faisait alentour. Les bienheureux moments d'oubli revenaient toujours plus fréquents, et la faux semblait entraîner à sa suite un corps plein de vie, et accomplir, par enchantement, sans le secours de la pensée, le labeur le plus régulier. En revanche, lorsqu'il fallait interrompre cette activité insouciante, enlever une motte de terre ou arracher un bouquet d'oseille sauvage, le retour à la réalité semblait pénible. Pour le vieillard, ce n'était qu'un jeu. Quand une motte se présentait, il la serrait d'un côté avec le pied et de l'autre avec la faux et l'enlevait à petits coups répétés. Rien n'échappait à son observation. C'était un petit fruit sauvage qu'il mangeait ou offrait à Lévin, un nid de caille d'où s'envolait le mâle, une couleuvre qu'il enlevait de la pointe de sa faux comme sur une fourchette et jetait au loin après l'avoir montré à ses compagnons. Mais pour Lévin et le jeune paysan, une fois entraîné, c'était chose difficile que de changer de mouvement et d'examiner le terrain. Le temps passait inaperçu, et déjà le moment du dîner approchait. Le vieillard attira l'attention du maître sur les enfants, à moitié cachés par les herbages, accourant de tous côtés, et apportant aux faucheurs du pain et des cruches de kvass, qui semblaient lourdes à leurs petits bras. « Voilà les moucherons qui arrivent !» dit-il en les montrant. Et s'abritant les yeux de la main, il examina le soleil. L'ouvrage reprit pendant un peu de temps, puis le vieux s'arrêta et dit d'un ton décidé « Il faut dîner, Marine !» Les faucheurs regagnèrent l'endroit où étaient déposés leurs vêtements et où les enfants attendaient avec le dîner. Les uns s'assemblèrent près des télègues, les autres sous un bouquet de citis où ils avaient amassé de l'herbe. Lévin s'assit auprès d'eux. Il n'avait aucune envie de les quitter. Toute gêne devant le maître avait disparu, et les paysans s'apprêtèrent à manger et à dormir. Ils se lavèrent, prirent leur pain, débouchèrent leurs cruches de kvass pendant que les enfants se baignaient dans la rivière. Le vieux émietta du pain dans une écuelle, l'écrasa avec le manche de sa cuillère, versa du kvass, coupa des tranches de pain, sala le tout, et se mit à prier en se tournant vers l'Orient. « Eh bien, Marine, viens goûter ma soupe !» dit-il en s'agenouillant devant l'écuelle. Lévin trouva la soupe si bonne qu'il ne voulut pas rentrer chez lui. Il dîna avec le vieux. Et leur conversation roula sur les affaires de ménage de celui-ci, auquel le maître prit un vif intérêt. À son tour, il raconta de ses plans et de ses projets ce qui pouvait intéresser son compagnon, se sentant plus en communauté, en communauté d'idées avec cet homme simple qu'avec son frère, et souriant involontairement de la sympathie qu'il éprouvait pour lui. Le dîner achevé, le vieillard fit sa prière et se coucha après s'être arrangé un oreiller d'herbe. Les filles en fit autant, et malgré les mouches et les insectes qui chatouillaient son visage couvert de sueur, il s'endormit aussitôt et ne se réveilla que lorsque le soleil, tournant le buisson, vint briller au-dessus de sa tête. Le vieux ne dormait plus, il aiguisait les faux. Lévin regarda autour de lui sans pouvoir s'y reconnaître. Tout lui semblait changé. La prairie fauchée s'étendait immense avec ses rangées d'herbes odorantes, éclairées d'une façon nouvelle par les rayons obliques du soleil. La rivière, cachée naguère par les herbages, coulait limpide et brillante comme de l'acier entre ses bords découverts. Au-dessus de la prairie planaient des oiseaux de proie. Lévin calcula ce que ses ouvriers avaient fait et ce qu'il restait à faire. Le travail de ces 42 hommes était considérable. Du temps du servage, 32 hommes travaillant pendant 2 jours venaient à peine à bout de cette prairie, dont il ne restait plus que quelques coins intacts. Mais il aurait voulu faire plus encore. Le soleil descendait trop tôt, à son gré. Il ne sentait aucune fatigue. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il au vieux. « N'aurions-nous pas encore le temps de faucher la colline ?»« Si Dieu le permet, le soleil est encore haut, il y aura peut-être un petit verre pour les enfants. » Et lorsque les fumeurs eurent allumé leur pipe, le vieux déclara aux enfants que si la colline était fauchée, on aurait la goutte. Pourquoi pas, en avant, Tite, nous enlèverons cela en un tour de main, on mangera la nuit. En avant, crièrent quelques voix, et tout en achevant leur pain, les faucheurs se levèrent. Allons, enfants, courage, dit Tite, en ouvrant la marche au pas de course. Allons, allons, répéta le vieux, se hâtant de les rejoindre. Si j'arrive le premier, je coupe tout. Vieux et jeunes fauchèrent à l'envi, et quelque hâte qu'ils fissent, les rangées se couchaient nettes et régulières, sans que l'herbe fût abîmée. Les derniers faucheurs terminaient à peine leur ligne, que les premiers, mettant leur cafetan sur l'épaule, prenaient déjà la route de la colline. Le soleil descendait derrière les arbres lorsqu'ils atteignirent le petit ravin. L'herbe y venait à la ceinture, tendre, douce, épaisse, et semée de fleurs des bois. Après un court conciliabule pour décider si l'on prendrait en long ou en large, un grand paysan à barbe noire, Piotr Ermilitch, un faucheur célèbre, fit en long le premier tour et revint sur ses pas. Tous alors le suivirent, montant du ravin à la colline pour sortir sur la lisière du bois. Le soleil disparaissait peu à peu derrière la forêt. La rosée tombait déjà. Les faucheurs n'apercevaient plus le globe brillant que sur la hauteur, mais dans le ravin d'où s'élevait une vapeur blanche et sur le versant de la montagne, ils marchaient dans une ombre fraîche et imprégnée d'humidité. L'ouvrage avançait rapidement. L'herbe s'abattait en haute rangée. Les faucheurs, un peu à l'étroit et pressés de tous côtés, faisaient résonner les ustensiles suspendus à leur ceinture, entrechoquaient leurs faux, sifflaient, s'interpellaient gaiement. Lévin marchait toujours entre les deux compagnons. Le vieux avait mis sa veste de peau de mouton et conservait son entrain et la liberté de ses mouvements. Dans les bois, on trouvait des champignons cachés sous l'herbe. Au lieu de les trancher avec la faux comme les autres, il se baissait dès qu'il en apercevait un, le ramassait et le cachait dans sa veste en disant « Encore un petit cadeau pour la vieille !» L'herbe tendre et douce se fauchait facilement, mais il était dur de monter et de descendre la pente souvent escarpée du ravin. Le vieux n'en laissait rien paraître, montant à petits pas énergiques et maniant légèrement sa faux, quoiqu'il tremblât parfois de tout son corps. Il ne négligeait rien sur sa route, ni une herbe ni un champignon, et ne cessait de plaisanter. Lévin, derrière lui, croyait tomber à chaque instant et se disait que jamais il ne gravirait une fois la main ces hauteurs difficiles à escalader, même les mains libres. Il n'en monta pas moins et fit comme les autres. Une fièvre intérieure semblait le soutenir. Le travail terminé, les paysans remirent leur cafetan et reprirent gaiement le chemin du logis. Lévin remonta à cheval et se sépara à regret de ses compagnons. Serge Ivanitch avait dîné depuis longtemps et dans sa chambre prenait de la limonade glacée en parcourant les journaux et les revues que la poste venait d'apporter, lorsque Lévin entra vivement, les cheveux en désordre et collés au front par la sueur. « Oh, nous avons enlevé toute la prairie. Tu ne t'imagines pas comme c'est bon. Et toi, qu'as-tu fait ? » dit-il, oubliant complètement les impressions de la veille. « Bon Dieu, de quoi tu as l'air ? » dit Serge Ivanitch, en leur jetant d'abord un regard mécontent sur son frère. « Mais ferme donc la porte. Tu en auras fait entrer au moins une dizaine. » Serge Ivanitch avait horreur des mouches. Il n'ouvrait jamais les fenêtres de sa chambre que le soir, ayant soin de tenir les portes toujours fermées. Mais je t'assure que je n'en ai pas laissé entrer une seule. Si tu savais la bonne journée, comment l'as-tu passée, toi ? Ben, très bien. Tu ne vas pas me faire croire que tu as fauché toute la journée. Tu dois avoir une faim de loup. Kousma a tout apprêté pour ton dîner. Oh non, non, j'ai pas faim, j'ai mangé là-bas, mais je vais me nettoyer. Va, va, je te rejoins, dit Serge Ivanitch, hochant la tête en regardant son frère. Dépêche-toi, ajouta-t-il en souriant, et il se mit à ranger ses livres pour aller le retrouver, égayé à l'aspect de l'entrain et de l'animation de Constantin. Où étais-tu pendant la pluie ? Quelle pluie ! Oh, c'est à peine s'il est tombé quelques gouttes. Je reviens à l'instant, si tu as bien passé ta journée, ben c'est pour le mieux. Et Lévin alla s'habiller. Peu après, les frères se retrouvèrent dans la salle à manger. Lévin croyait n'avoir pas faim et ne se mit à table que pour ne pas offenser Kousma, mais une fois qu'il eut entamé son dîner, il le trouva excellent. Serge Ivanitch le regardait en souriant. « j'oubliais qu'il y a une lettre pour toi en bas, dit-il. Kousma, va la chercher et fais attention de fermer la porte. » La lettre était d'Oblonsky. Il écrivait de Pétersbourg. Constantin lut à haute voix. Je reçois une lettre d'Olli de la campagne Tout y va de travers. Toi qui sais tout, tu serais bien aimable d'aller la voir et de l'aider de tes conseils. La pauvre femme est toute seule. Ma belle-mère est encore à l'étranger avec tout son monde. Oh, j'irai certainement la voir, dit Lévin. Tu devrais venir avec moi, c'est une si excellente femme, n'est-ce pas ? Leur terre n'est pas loin d'ici. Oh, une trentaine de verstes, peut-être une quarantaine. Mais la route est très bonne. Nous ferions cela rapidement. Avec plaisir, dit Serge en souriant, car la vue de son frère le disposait à la gaieté. Quel appétit ! Ajouta-t-il en regardant ce cou et cette figure hâle et rouge penchée sur l'assiette. Il est excellent, tu ne t'imagines pas combien ce régime-là chasse de la tête toutes les sottises. J'entends enrichir la médecine d'un terme nouveau, Arbeitskur. Oh, tu n'as pas grand besoin de cette cure, il me semble. Oui, mais c'est parfait pour combattre les maladies nerveuses. C'est une expérience à faire. J'ai voulu aller vous voir travailler, mais la chaleur était si insupportable que je me suis arrêté et reposé au bois. De là, j'ai continué jusqu'au bourg, et j'ai rencontré ta nourrice, que j'ai questionnée sur la façon dont les paysans te jugent. J'ai cru comprendre qu'ils ne t'approuvent pas. « Ce n'est pas l'affaire des maîtres, m'a-t-elle répondu. Je crois que le peuple se forme en général des idées très arrêtées sur ce qu'il convient aux maîtres de faire. Ils n'aiment pas à les voir sortir de leurs attributions. » « C'est possible, mais je n'ai pas éprouvé le plus vif plaisir de ma vie et je ne fais de mal à personne, n'est-ce pas ? Je vois que ta journée te satisfait complètement, continua Serge. Oui, je suis très content. La prairie a été fauchée tout entière, et je me suis lié avec un bien brave homme. Tu ne saurais croire combien il m'a intéressé. Tu es content de ta journée, eh bien, je le suis aussi de la mienne. D'abord, j'ai résolu deux problèmes d'échecs, dont l'un est très joli, je te le montrerai. Puis, j'ai pensé à notre conversation d'hier. Quoi, quelle conversation ? Dit Lévin en fermant à demi les yeux après son dîner, avec un sentiment de bien-être et de repos, et incapable de se rappeler la discussion de la veille. Je trouve que tu as en partie raison. La différence de nos opinions tient à ce que tu prends l'intérêt personnel pour mobile de nos actions, tandis que je prétends que tout homme arrivé à un certain développement intellectuel doit avoir pour mobile l'intérêt général. Mais tu es probablement dans le vrai en disant qu'il faut que l'action, enfin l'activité matérielle, se trouve intéressée à ces questions. Ta nature, comme disent les Français, prime sautière. Il te faut agir énergiquement, passionnément, ou ne pas agir du tout. » Lévi écoutait sans comprendre, sans chercher à comprendre, et craignait que son frère ne lui fît une question qui constata l'absence de son esprit. « N'ai-je pas raison, ami ?» dit Serge Ivanitch en le prenant par l'épaule. « Oh, mais certainement. Et puis je ne prétends pas être dans le vrai, » dit Lénine, avec un sourire d'enfant coupable. « Quelle discussion avons-nous donc eue » pensait-il. « Nous avons évidemment raison tous les deux, et c'est pour le mieux. Il faut que j'aille donner mes ordres pour demain. » Il se leva et tira ses membres en souriant. Son frère sourit aussi. « Bon Dieu !» cria tout à coup Lévin, si vivement que son frère en fut effrayé. « Qu'y a-t-il ? » ?»« La main d'Agathe Mikhailovna, » dit Lévin en se frappant le front. « J'avais oublié. » « Elle va beaucoup mieux. »« Ah, c'est égal, je cours jusqu'à sa chambre. Tu n'auras pas mis ton chapeau que je serai de retour. » Et il descendit en courant, faisant résonner ses talons sur les marches de l'escalier.